السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Donc la louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que l'honneur et l'élévation degré les plus complets, les plus parfaits soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man yuridillahu bi khayran yufaqihu fi din. C'est-à-dire, celui pour qui Allah veut le bien et lui facilite l'apprentissage de la religion. Donc, après avoir vu l'explication de Ayat al-Kursi et la récitation, donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous parlerons de l'exégèse de Surat al-Fatiha. Donc, qui est une sourate très importante parce que c'est la seule sourate obligatoire pour tout musulman, donc de savoir la réciter correctement pour la validité de la prière, et donc d'où l'importance de connaître son interprétation correcte. Donc on a parlé dans les cours où on parlait des règles d'interprétation du Coran, qui a des versets explicites et des versets non explicites, et que on ne peut pas interpréter les versets non explicites dans un sens contraire aux autres versets, ni un sens qui n'est pas digne de Dieu. Et on avait parlé, on avait cité Sourate al-Fatiha pour cela. Notamment, on a dit, on n'attribue pas à Dieu la colère, l'humeur, le changement, parce que Dieu, rien n'est tel que lui et rien n'a de ressemblance avec lui. Donc faire attention aux mauvaises traductions qu'on trouve sur le marché, que ce soit sur internet ou dans les livres, ils traduisent sans être compétents religieusement. Et donc, il suffit à traduire linguistiquement, donc des sens c'est-à-dire littéral, sans règles religieuses. Et ça arrive souvent qu'ils se trompent en attribuant à Dieu l'humeur, le changement, les organes, etc. Et ceci, c'est du shirk. Assimiler Dieu à ses créatures, c'est contraire à l'islam, qui est la religion de tous les prophètes. Donc la religion s'apprend par transmission orale. Ce n'est pas je télécharge une application, je vais regarder la signification, parce que application au livre, ça peut être écrit par n'importe qui ou fait par n'importe qui. La religion, c'est par chaîne de transmission auprès des gens de la connaissance digne de confiance. Donc la louange est à Allah qui a honoré la communauté de Muhammad par le Coran honoré. Il a préservé de la falsification de tout entêté, et que l'élévation en degré, l'honneur et la préservation de sa communauté de ce qu'il craint pour elle soit accordé à notre maître Muhammad, celui qui appelle par la volonté de Allah au chemin de bonne guidée, ainsi que sa famille, l'élite et ses compagnons purs. Certes, la science de l'exégèse, tafsir, est une science honorable par laquelle on parvient à comprendre les sens du Coran honoré. Donc, bien sûr, cette science s'acquiert par transmission. Donc déjà, on apprend le minimum de la religion indispensable sur la croyance, la prière, la purification, etc. Et les détails du tafsir, de l'exégèse, ça s'apprend en seconde étape pour quelqu'un qui veut augmenter en connaissance. Donc c'est grâce à cette science aussi que l'on extrait des jugements de la loi et que l'on tire des leçons de ce qu'il contient comme récit, moralité et autre chose utile. C'est-à-dire que le savant compétent fait cela, extraire des jugements, en plus de ce que l'on apprend comme cause de descente des ayats, en connaissant celles qui sont mécoises et celles qui sont médinoises, celles qui sont explicites, muhkama. Donc, comme on a dit, celles qui admettent un seul sens du point de vue de la langue arabe et qui sont la base du livre, ça on a vu dans les cours précédents, et celles qui sont non explicites, mutashabiha. Donc, qui nécessitent une interprétation correcte, conforme à la langue arabe et conforme aux autres ayats muhkama. Et donc, forcément, dans ce cas-là, si on fait ainsi, on aura un sens correct, digne de Dieu, qui correspond donc aux règles de la religion. Donc, en connaissant celles qui abrogent, nasir, et celles qui sont abrogées. Donc, le savant, il connaît, donc, surtout le savant mujtahid, qui peut extraire des lois à partir du Coran et du Hadith, il doit connaître cela. Parce que pendant la vie du prophète, il y avait certains versets qui ont été abrogés. Nasr. Celles qui sont particulières, khassa, celles qui sont générales, am. Il y a des versets donc qui ont un sens général, et il y a un verset qui a un sens restreint, particulier. Et le général, il est restreint par le particulier. Celles qui sont une promesse de récompense et celles qui sont une menace de châtiment et autre que cela. Donc il y a beaucoup de science dans le Coran, donc masha'Allah, et il y a bien sûr beaucoup de baraka et de bénédiction, une cause de guérison, surtout la Fatiha, on récite pour beaucoup de sujets, pour la réussite, pour la facilité, pour la baraka. Même les gens pour un mariage disaient le Fatiha. Bien sûr, réciter la Fatiha ne fait pas un mariage. On la récite pour la baraka. Parce que c'est Ummul Kitab. Donc, le mariage, il a des règles, bien évidemment, en islam. Donc, on verra, Inch'Allah, les détails. La formule, le tuteur qui donne sa fille au mariage, etc., devant des témoins musulmans, et l'homme qui accepte. Mais les gens récitent la Fatiha pour la baraka, pour les bénédictions, pour la réussite d'une chose. On récite la Fatiha 7 fois, par exemple. Donc, compte tenu du grand besoin des lecteurs francophones, la traduction a été faite avec un grand souci de rigueur quant au choix des termes et en évitant les expressions qui pourraient entraîner le lecteur à avoir de fausses croyances qui lui seraient préjudiciables dans ce bas-monde et dans l'au-delà. Donc, bien sûr, on traduit le sens, c'est ça la règle. On traduit le sens du verset, l'interprétation donnée par les savants du verset. On traduit pas comme ça mot à mot, comme on voit dans plusieurs livres qui prétendent traduire le Coran. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Je recherche la préservation par Allah contre le shaitan, l'humilié. Donc, ça, on la récite donc, avant de réciter le Coran, l'isti'adha. L'isti'adha, la demande de préservation, ne fait pas partie du Coran selon l'unanimité. Elle signifie, je demande la préservation par Allah pour qu'il me préserve du mal du shaitan, contre celui qui s'est rebellé, l'injuste, le non-croyant parmi les djinns. Shaitan, c'est le non-croyant, le mécréant parmi les djinns. Parce que dans les djinns, il y a des musulmans et des mécréants. Et on a vu que le verset le plus fort pour éloigner les djinns, c'est Ayat al-Kursi. Et la Fatiha aussi, on récite. On récite pour éviter aussi la nuisance des djinns, pour la guérison aussi. Donc, une ou plusieurs fois. Donc, on a vu un peu la prononciation sur A'udhu billahi minash shaitanir rajim. On reprendra dans la deuxième partie du cours, Inch'Allah. Al-Rajim vient dans le même sens que Al-Marjoum. C'est d'ailleurs celui qui est éloigné du bien, qui est chassé, humilié. Il est recommandé de commencer par l'istihada avant de réciter le Coran. C'est cela l'avis de la majorité. Allah Ta'ala dit: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ce qui signifie: si tu veux réciter le Coran, alors demande la préservation par Allah contre le shaitan, le maudit. Sourate An-Nahl, ayat 98. La majorité des savants ont dit: cela signifie, lorsque tu veux réciter, alors demande la préservation par Allah contre le shaitan. Donc c'est ça le sens, selon la majorité des savants. Ceci comme dans le hadith rapporté par Al-Hamidi et Al-Tabarani: إِذَا أَكَلْتَ فَسَمِّ اللَّهِ. Lorsque tu veux manger, alors évoque le nom de Allah, et non lorsque tu finis. Donc voilà la signification en langue arabe. Parce que si on traduit littéralement akalta, si tu as mangé, évoque le nom de Allah. Donc le sens apparent, littéral, alors que le vrai sens dans la rhétorique ici, donc il y a une règle de rhétorique qui est employée. إِذَا أَكَلْتَ فَسَمِّ اللَّهِ, c'est-à-dire, si tu veux manger, alors évoque le nom de Allah. Lorsque tu veux manger. Et pareil, si tu veux réciter le Coran, alors demande la préservation par Allah contre le shaitan, le maudit. Al-Fatiha, surat Al-Fatiha, elle est mécoise, elle comporte cette ayah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc quand la Fatiha a été révélée, le shaitan, il a créé un cri très très fort. Donc la basmala est une des ayahs de la Fatiha, selon l'imam Shafi'i, et la prière n'est pas valable sans elle. Selon Malik et Abu Hanifa, ce n'est pas une ayah de la Fatiha. Dans l'école Shafi'i, si tu ne récites pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et tu commences directement par Alhamdulillah Rabbil Alamin, ce n'est pas valable la prière. Chez les Maliki, c'est valable. Et on en a parlé l'autre fois, bien sûr. Aucun savant ne dit, c'est interdit de commencer par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc il n'y a pas d'avis qui est considéré qui dit cela. Donc les Maliki, pour eux, commencer par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, donc ça annule pas la prière et c'est valable. Mais pour eux, ce n'est pas obligatoire. S'il dit directement Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est valable. Donc les gens du Salaf, les musulmans des trois premiers siècles, de l'Égir et du Khalaf, les musulmans des siècles suivants, ont eu l'habitude de commencer leurs écrits et leurs ouvrages par la basmala. La basmala vient en effet au début de chaque sourate, mis à part sourate Bara'ah, sourate At-Tawbah. On ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim dans sourate Bara'ah. Donc Salaf, bien sûr, on parle des trois premiers siècles, les musulmans. Et on a dit, ce n'est pas la secte extrémiste wahhabite, ceux qui sont appelés salafites. Il n'est pas permis de les appeler salafites, parce que ça induit les gens en erreur, en faisant croire qu'ils suivraient le Salaf, alors que le Salaf est innocent de ces gens-là. Le Salaf, c'est les musulmans des trois premiers siècles. Alors les wahhabites, ils déclarent mécréants les musulmans. Donc on a commencé à parler, on continuera, Inch'Allah, donc cette secte, les wahhabites, une secte très dangereuse, et on a vu aidée par les ennemis d'Islam, Donc, ils les aident malheureusement pour détruire les pays musulmans, comme on le voit, c'est caché à personne, ce qu'ils font comme aberration dans les pays musulmans. Et puis, donc, eux-mêmes, et puis beaucoup de gens, même dans la politique, ils reconnaissent que le wahhabisme, c'est aider politiquement, et donc c'est dans le but de contre l'islam. Donc, commencer par la basmala est recommandé mais non obligatoire. Avant toute chose qui est honorable selon la loi de l'islam. À moins qu'il ait été rapporté autre chose comme pour la prière qui commence par le takbir, Allahu Akbar, et l'invocation à du'a qui commence par Alhamdulillah. Donc, dans la religion, il y a une règle. Tout ce qui est bien dans la religion, c'est bien que tu commences par Bismillah. Sauf les exceptions qui ont, où il a été cité qu'on commence par autre chose. Comme la prière, on commence pas par Bismillah, on dit Allahu Akbar. Et le dua, il a été rapporté de, c'est bien de commencer par Alhamdulillahi Rabbil Alameen et de faire l'invocation en faveur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quant à ce qui ne représente pas un acte méritoire, rapprochant de l'agrément de Allah, et faisant partie des choses qui sont interdites, il est interdit de le commencer par la basmala. On ne dit pas bismillah dans les choses interdites, bien sûr. Ainsi, il n'est pas permis de prononcer la basmala lorsque la personne boit de l'alcool. Certains hanafis ont dit que commencer par bismillah avant de boire de l'alcool, c'est de la mécréance. Ce qui est correct, c'est de détailler. C'est de nuancer la chose. C'est de dire celui qui en a visé la recherche des bénédictions tabarruk pour la boisson d'alcool, cela est de la mécréance. Donc il a cherché les bénédictions par la boisson d'alcool, c'est de la mécréance. Mais si la personne vise à être protégé contre son mal, c'est interdit. Mais ne comporte pas de mécréance. Donc si elle vise juste à être préservée en disant Bismillah, c'est interdit, mais ne comporte, ce n'est pas de la mécréance. C'est interdit, mais ce n'est pas de la mécréance. D'autre part, commencer par la basmala, commencer par Bismillah lors d'une chose déconseillée, c'est déconseillé. Makruh. Il y a des choses déconseillées à faire religieusement, donc on ne dit pas Bismillah. Voilà le détail concernant donc le fait de commencer par Bismillah. Donc on ne fait pas, on commence pas par Bismillah dans les choses qui sont pas bien religieusement. Avec le détail qu'on a cité. Donc, il n'est pas permis de commencer quelque chose qui est interdit. Et s'il vise de chercher des bénédictions par cette chose, c'est de la mécréance. Et pour la chose déconseillée, c'est déconseillé de commencer par Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc voilà. Alors, il y a des détails, donc, pour la basmala. Dans la basmala, le terme qui se rapporte au bi, donc bi par, qu'on pourrait traduire, de bismillah, et qui n'est pas mentionné, peut être soit un verbe, soit un nom. Si c'est un verbe, cela peut être, par exemple, je commence par le nom de Allah. Si c'est un nom, cela peut être, par exemple, mon commencement a lieu par le nom de Allah. Par le nom de Allah. Et le mot Allah est un nom propre désignant Dieu, celui dont l'existence est obligatoire, celui qui a l'existence obligatoire selon la raison, qui mérite toutes les louanges. Donc celui qui a l'existence obligatoire selon la raison, qui mérite toutes les louanges. Donc Allah est donc spécifique à Dieu, celui qui a l'existence obligatoire selon Donc la raison. Donc on l'a vu et on le reverra. Dieu est le seul être qui a l'existence obligatoire. Donc son existence est obligatoire selon la raison. Il est impossible l'anéantissement à son sujet. Et le mot Allah est un nom propre, désignant Dieu. Voilà. Le terme Allah n'est pas dérivé d'un verbe ou d'un nom. Ceci est l'avis des grands linguistes. C'est pas quelque chose qui est dérivé, parce que ça arrive dans la langue qu'il y a des choses dérivées. Mais les grands linguistes ont dit, ce n'est pas dérivé. La signification de Bismillah, et je commence en citant le nom de Allah. Et le terme Allah est un nom propre spécifique à Dieu qui désigne l'être glorifié, qui mérite l'extrême glorification, qui mérite l'extrême limite de l'humilité, de la soumission. C'est ça l'adoration. Seul Dieu mérite l'extrême glorification. Celui qui a la divinité, la puissance pour créer, c'est-à-dire pour faire passer du néant à l'existence. Donc, Dieu, il a la divinité et il mérite l'adoration. Donc l'adoration, c'est important de savoir, ce n'est pas comme pensent justement les extrémistes wahhabites. C'est là où souvent ils déclarent mécréants les musulmans. Donc quelqu'un qui touche la Kaaba, donc moi personnellement devant moi, un wahhabite, il l'a déclaré le musulman mécréant juste parce qu'il a mis ses vêtements sur la Kaaba. Ils vont déclarer mécréants les musulmans et par cela ils ont attiré les gens dans leur mouvance, des gens comme ça, ils sont partis faire avec Daesh, etc., avec cette propagande wahhabite. Donc en islam, par exemple, on donne un exemple, ceux qui adoraient les statues à l'époque du prophète, ils savaient que les statues ne créent rien, mais quand même ils s'humiliaient à l'extrême aux statues. Donc s'humilier à l'extrême, c'est l'adoration, et c'est valable que pour Dieu. Voilà. L'extrême glorification, c'est ça l'adoration. Ce n'est pas le simple fait de prendre une cause, comme Saïdna Youssef, il a dit, prenez mon habit et mettez sur les yeux de mon père, il va retrouver la vue. Et ça, c'est dans le Coran. Dans le Coran, dans Sourate Youssef. Où le prophète, il a partagé ses cheveux. Et Khaled, des milliers de compagnons, ils ont pris et Khaled. Donc, il a pris, il a dit par la baraka des cheveux du prophète, Dieu m'a accordé la victoire. Ou dans certaines batailles, les compagnons, ils disaient, Ya Muhammad, ô Muhammad, après le décès du prophète. Ils demandaient par le degré du prophète. Donc ça, ce n'est pas l'adoration. L'adoration, elle a une explication claire. C'est l'extrême glorification. Ça englobe le sens, par exemple, de croire seul Dieu peut faire passer les choses du néant à l'existence. Croire qu'une créature elle peut faire passer les choses du néant à l'existence, c'est adorer cette créature. Croire qu'une créature peut pardonner les péchés, c'est l'adorer. Comme Dieu nous dit, les mécréants, donc ceux qui ont adoré les prêtres et qui ont adoré Isa, en s'humiliant à l'extrême, ou en croyant que ces prêtres peuvent pardonner les péchés, ou qu'ils peuvent décréter de leur propre chef une chose permise ou interdite, ça c'est le vouer l'adoration. Donc, c'est pour cela, ils disent les savants, celui qui obéit à quelqu'un qui rend licite quelque chose, donc interdite, connue d'évidence dans la religion, qui n'échappe pas à la personne concernée, il sait que c'est ainsi dans l'islam, mais il obéit à quelqu'un, c'est qu'il l'a adoré. Parce que considérer permis ce que Dieu interdit, c'est se prétendre à la divinité. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut c'est-à-dire décréter qu'une chose interdite ou permise. Donc faire attention à cela. Et ça, c'est cité dans le Coran. Ceux qui considéraient, par exemple, tel péché licite, etc. Donc il y a des exemples cités dans le Coran. Donc faire attention, on considère pas quelque chose permis alors qu'elle est interdite même pour plaisanter. Ou certains qui vont suivre des gens aveuglément qui autorisent des choses que Dieu interdit. Ça, c'est du shirk. C'est adorer cette personne. Car il n'y a que Dieu qui peut décréter telle chose permise ou interdite. Donc, Dieu a la divinité qui est la puissance pour créer, c'est-à-dire faire passer l'union à l'existence. Donc, c'est lui qui mérite la glorification. Donc, il a l'existence obligatoire selon la raison. Voilà, donc un point très important. Donc, bien sûr, aussi, le terme Dieu est spécifique à Dieu. Il est attribué à autre que Dieu et de la mécréance. Même par plaisanterie. La plaisanterie, la colère, ce ne sont pas des excuses dans la religion. Et le même ici, dans un sens figuré, soi-disant, attribuer le mot Dieu à une créature, donc c'est un blasphème. Donc on ne va pas appeler un être humain Dieu. Parce que c'est spécifique à Dieu. Comme le terme « ilah » en arabe. Donc dans le Coran, c'est dans tout le Coran, il n'est jamais employé le mot « ilah » pour désigner dans l'absolu autre que Dieu. Mais c'est à employer de façon attribuée. En signifiant ce qu'ils prétendent être leur Dieu. Ou ce qu'ils prétendent telle personne être son Dieu. Mais de façon absolue, le mot Dieu, l'ilah, ne désigne pas autre que Dieu dans le Coran. Car c'est valable que pour Dieu. Donc, Ar-Rahman, aussi, c'est quelque chose de spécifique à Dieu, c'est un nom spécifique à Dieu, c'est-à-dire celui qui est très miséricordieux envers les croyants, c'est-à-dire les musulmans, et les non-croyants dans le bas monde, et envers les croyants uniquement dans l'au-delà, spécifiquement aux croyants dans l'au-delà. Donc, ainsi dans cette vie, Allah fait miséricorde aux musulmans et aux non-musulmans. Même l'air que respirent les non-croyants est une miséricorde de Dieu. Mais dans l'au-delà, la miséricorde de Dieu est spécifique aux musulmans. Donc, il n'est pas permis de demander miséricorde pour celui qui meurt non-musulman. Car Dieu ne pardonne pas celui qui meurt non-croyant. Ça, donc on a vu cela déjà. Quand l'oncle du prophète il est mort, Dieu nous montre que c'est interdit de demander pardon à celui qui meurt non musulman, même s'il est proche famille. Parce que Dieu ne pardonne pas celui qui meurt mécréant. Celui pour qui Allah voulait le bien, il le guide pendant qu'il est vivant. Mais s'il meurt non musulman, c'est que c'est un signe que Dieu n'a pas voulu pour lui le bien. Car, bien sûr, la règle, Dieu n'est pas obligé de donner à l'être humain ce qui est le mieux pour lui. Dieu donne par sa grâce et prive par sa justice. Allah Ta'ala dit dans le Coran, wa rahmati wasi'at kulla shay' fa sa'aktubuha lil ladhina yattaqun. Ce qui signifie la miséricorde de Dieu dans cette vie concerne le musulman et le non-musulman et elle est spécifique aux musulmans dans l'au-delà. Sourate Al-A'raf, ayat 156. Donc Dieu ne fait pas miséricorde dans l'au-delà à celui qui meurt non-musulman. Mais dans cette vie, il donne et fait miséricorde aux musulmans et aux non-musulmans. L'air que respirent les gens, c'est une miséricorde de Dieu. L'eau aussi. Et comme il dit, Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. C'est-à-dire, si vous essayez d'énombrer les bienfaits que Dieu vous a accordés, vous n'y arriverez pas. Ar-Rahim, c'est-à-dire celui qui est très miséricordieux envers les musulmans. Donc Ar-Rahman, il a un sens plus fort, ils ont dit les savants. C'est pour ça la construction, elle est ainsi. Ar-Rahman, donc celui qui fait miséricorde aux musulmans et aux non-musulmans dans cette vie, et uniquement aux musulmans dans l'au-delà. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, ce qui signifie la louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Alhamdu, c'est la louange par la langue, pour le bien accordé par Allah, sans que cela soit obligatoire sur lui. Car la règle, comme on l'a dit, rien n'est obligatoire au sujet de, c'est-à-dire sur Dieu. Il donne par sa grâce. Il guide aussi par sa grâce. Et il punit, il prive, il égare par sa justice. Donc, Alhamdulillah, c'est la louange à Allah selon ce qui est digne de lui pour ses bienfaits, ses mérites, lui qui est le Seigneur des mondes. Les mondes, c'est tout ce qui est autre que Allah. Le monde est appelé Alam, car il est une alama, un signe de l'existence de Allah. Donc, dans ce monde, tout est une preuve de l'existence de Dieu. Car selon la raison, toutes ces créatures auraient pu ne pas exister, auraient pu avoir une autre forme, un autre aspect, ou exister à une autre époque. Donc forcément, il y a un créateur qui a voulu que ce soit ainsi et pas autrement. Que le monde existe au lieu d'être resté dans l'air. Qu'il existe avec telle caractéristique, tel aspect, au lieu d'autre. Donc, le monde, c'est tout ce qui est autre que Allah. Donc ça, c'est une des preuves que citent les savants sunnites contre certaines sectes, certaines croyances qui nient l'existence des créatures. Et ça, c'est un blasphème aussi. Parce que Dieu confirme l'existence, son existence et l'existence des créatures. On ne peut pas nier l'existence des créatures comme certaines sectes qui disent les créatures sont imaginaires, c'est pas une réalité. Et ça, c'est un blasphème aussi, car c'est contraire à la réalité observable et contraire au texte religieux, que le monde existe réellement, que les créatures existent réellement. Les humains, des animaux, des arbres, etc., le ciel, la terre, etc. C'est des choses réelles, ce n'est pas imaginaire. Donc nier cela, c'est un blasphème. Et ça, c'est parmi les preuves. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. C'est-à-dire, Dieu confirme son existence et l'existence des créatures. Donc on a expliqué Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc ça c'est important, car on l'a vu, on ne peut pas demander miséricorde pour celui qui meurt non musulman. Car Dieu fait ce qu'il veut, si Dieu voulait leur guider tout le monde. Mais Dieu a voulu qu'il y ait des humains et des djinns qui vont en enfer, comme dans les versets qu'on a vus. Donc c'est Dieu qui guide et il garde qui il veut. Il n'a pas de compte à rendre. Celui que Allah égare, personne ne peut le guider. Celui qu'il guide, personne ne peut l'égarer. Donc c'est Ar-Rahim, on l'a vu. Celui qui fait miséricorde aux croyants, Allah Ta'ala dit « وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا » Il est miséricordieux pour les croyants. Ar-Rahman est plus éloquent, plus fort que Ar-Rahim selon la langue, car la construction du mot Ar-Rahman est plus longue que Ar-Rahim. Et cela implique et indique une amplification du sens. Maliki yawm al-din, c'est-à-dire que Allah est celui à qui tout appartient et qui fait de toutes les créatures ce qu'il veut. Yawm al-din, c'est le jour de la rétribution. Donc ici il dit Maliki yawm al-din, c'est-à-dire celui à qui appartient le jour dernier. Ici c'est cité, c'est pas pour rien, c'est pour montrer l'importance de ce jour. Sinon Allah et celui qui appartient à cette vie et l'au-delà, bien sûr. Ainsi, Allah est celui à qui appartient le bas monde et l'au-delà. Il en fait ce qu'il veut. Et il dit, Maliki yawm al-din. Dans cette ayah, le jour du jugement a été précisé par glorification du jour de la rétribution. En raison de la gravité de l'importance de la gravité des grandes épreuves qui auront lieu à ce moment-là. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc là aussi, il y a des détails à comprendre pour ne pas tomber dans l'extrémisme, notamment des wahhabis. Donc ici, c'est-à-dire que Allah Ta'ala, lui seul, mérite que l'on s'humilie pour lui. C'est ce qu'on a dit, de l'extrême humiliation. Et c'est de lui que l'on demande l'aide pour faire le bien et pour la préservation sur la bonne guidée, car les cœurs sont sous sa domination. Donc c'est Dieu qui fait changer les cœurs, c'est Dieu qui crée chaque instant, chaque perception, chaque mouvement, chaque immobilité. Les créatures ne peuvent pas se passer de Dieu un instant. Croire le contraire, c'est un blasphème. Donc cette ayah indique que l'on demande l'aide d'Allah, l'aide particulière, c'est-à-dire qu'on demande que Allah... Donc on demande à Allah de nous créer ce qui nous est utile. Car c'est Allah qui crée les choses. Les profits, les nuisances, les mouvements, les sentiments et tout ce qui entre en existence. Donc c'est ça le sens en fait. Seul Dieu crée... Donc le profit. Cependant, le sens n'est pas que l'on ne demande pas l'aide des créatures, c'est-à-dire qu'il soit une cause d'aide pour nous. Les créatures peuvent être une cause d'aide seulement. Et qui crée l'aide, qui crée chaque instant, chaque perception, chaque mouvement, chaque immobilité, chaque idée, c'est Dieu uniquement. Donc, dans le hadith, il est parvenu والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Ce qui signifie Allah aide l'esclave tant que l'esclave aide son frère. Et là aussi, c'est contraire à ce que prétendent la secte extrémiste, les Wahhabis, qui disent si tu demandes l'aide à autre que Allah, c'est du shirk. On peut demander l'aide d'autre que Allah parce que le musulman il croit que chaque instant, chaque mouvement est créé par Dieu. Du moment qu'il croit ça, il peut demander l'aide. Comme le prophète il a dit dans le hadith, qu'il y a des anges qui sont sur terre, qui notent les feuilles des arbres qui tombent. Il dit, si on est dans une terre déserte et qu'on a un problème, on dit « A'in wa ibad Allah »« Aidez-moi aux esclaves de Allah » Donc, les créatures peuvent être une cause d'aide. Ce n'est pas contraire à la croyance. « Ihdina s-sirata al-mustaqim » C'est-à-dire, honore-nous pour avoir la persévérance sur la bonne guidée, sur l'islam. C'est ça que ça veut dire. Ihdina s-sirata al-mustaqim. Ici, il ne veut pas dire qu'on doute de l'islam. Quelqu'un qui doute de son islam, il n'est pas musulman. Mais c'est comme dans le Coran, Ya ayyuha alladhina amanu, aminu. Donc, ici, ne veut pas dire, oh vous qui êtes croyants, croyez en Allah. Ils sont déjà croyants. Le verset veut dire, oh vous qui êtes croyants, persévérez sur la croyance. En Allah et en son messager. Ici, donc, honore-nous pour avoir la persévérance sur la bonne guidée sur l'islam. Ihdina sirat al-mustaqim sirat al-ladhina an'amta alayhim. La religion de ceux que tu as honorés parmi les prophètes et les anges, à savoir l'islam. L'islam, l'islam est la seule vraie religion. C'est la religion de tous les prophètes, de tous les livres révélés, la seule religion conforme à la raison. Car comme on l'a vu plusieurs fois, une vache, une statue, une lumière, une forme qui habiterait le ciel, c'est forcément une créature qui a besoin de qui lui a donné cette forme, cette quantité, cette localisation. Et le besoin contredit la divinité. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc on a vu dans la récitation, on reprendra inshallah. Donc non et non la voix de ceux qui méritent ton châtiment. غير المغضوب عليهم ولا الضالين ni la voix des égarés. Donc غير المغضوب عليهم veut dire ceux qui méritent le châtiment de Dieu. Et il n'est pas permis de dire la colère au sujet de Dieu car Dieu n'est pas concerné par la colère ni les sentiments ni l'humeur ni le changement. Et attribuer cela à Dieu est de la mécréance qui fait sortir de l'islam. Donc, Amin ne fait pas partie du Coran à l'unanimité des savants. Sa signification est « Oh Allah, exauce-nous ». Il est recommandé de dire après la Fatiha dans la prière. Après la prière, on dit « Après la Fatiha dans la prière, on dit « Amin ». Il est parvenu dans le hadith qui signifie « Quand l'imam dit « غير المغضوب عليهم » ولا dites Amin. On peut même couper sa récitation et dire Amin et on reprend. Pour dire avec l'imam. Donc voilà pour donc l'explication donc de sourate al-Fatiha, qui est une sourate importante. Et on a dit dire Amin à la fin, ce n'est pas une condition. Et comme dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim, ce n'est pas une condition et ça ne fait pas partie de la Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim fait partie de la Fatiha selon l'imam al-Shafi'i. Donc, et on a vu qu'on ne peut pas donc traduire غير المغضوب عليهم par la colère, car l'humeur n'est pas digne de Dieu. Le changement, comme on dit dans les pays musulmans, Subhan alladhi yughayyir wa la yataghayyar. Dieu fait changer les créatures et lui ne change pas. Donc on reprendra quand même la récitation dans la deuxième partie. On l'a déjà fait et c'est important de s'entraîner pour avoir une récitation correcte. Donc on a aussi vu Iyyaka na'budu, l'adoration. C'est l'extrême humilité et soumission. C'est spécifique à Dieu. Et Iyyaka nasta'in, c'est-à-dire on demande à Dieu la création du profit. Et ça, on le demande qu'à Dieu, la création du profit et de l'aide. De l'esclave, on peut demander l'aide qui est une cause. Mais il ne peut pas créer le profit, il n'y a que Dieu. Donc voilà la croyance sunnite, la croyance du juste milieu. On peut demander à la créature d'être une cause pour le profit, pour l'aide. Mais il n'y a que Dieu qui crée l'aide et le profit. Et c'est lui qu'on adore, on s'humilie à l'extrême, à lui seulement. Et on a mis en garde contre la secte wahhabite extrémiste, qui eux, ils vont déclarer mécréant le musulman, juste parce que il va chercher à demander à autre que Dieu ou utiliser des causes, alors que le prophète il a montré d'utiliser les causes. Donc en partageant ses cheveux par exemple, pourquoi? Pour la baraka, c'est pas pour qu'il les mange dans sous le tuyau, sauf aussi le prophète Youssef, qui est, donc les prophètes sont les meilleurs des créatures, sont mieux que les anges. Il a envoyé son habit alors, donc les wahhabites ils disent aux gens, ah non, mais en fait dans la sueur de l'habit ils ont découvert une enzyme qui soigne les yeux. Alors depuis tout ce temps là les gens ils auraient soigné les aveugles avec la sueur des gens. Donc tellement ils sont orgueilleux, ils veulent s'éloigner de la vérité. Comme l'orgueil ne veut pas accepter la vérité, il va changer de sujet, il va essayer de déformer la vérité. Donc tellement ils sont ignorants qu'ils tombent dans le piège qu'ils voulaient éviter. Parce que comme si Il croit que Dieu ne peut pas te donner par telle cause. C'est que des causes, car c'est Dieu qui crée. Le feu, il n'a pas brûlé Saïd Ibrahim. Ça reste que des causes. Donc, comme on a vu, Dieu peut donner la guérison en récitant la Fatiha. Ou en buvant l'eau de Zamzam, en touchant la Kaaba. Donc, c'est Dieu qui crée. Ça reste que des causes. C'est ça la bonne croyance et la bonne compréhension. Le prophète, c'est une cause de bien. Les musulmans vertueux, c'est une cause de bien. Alors que ce soit pendant leur vie ou après, ça change pas. Il n'y a que Dieu qui crée. Donc le seul créateur qui fait passer des choses du néant à l'existence, il n'y a que Dieu seulement. Donc utiliser les causes, ça reste que des causes. Donc l'extrémisme de ces gens-là, ils vont déclarer mécréants les musulmans parce qu'ils utilisent des causes. Et déclarer mécréant le musulman sans raison, ça retombe sur la personne. Donc par cela, on voit que les wahhabites, c'est pas des musulmans. Le fait qu'ils déclarent mécréants, autre le fait aussi qu'ils assimilent Dieu à ses créatures. On l'a vu ça dans les cours précédents, ils attribuent à Dieu la forme, la quantité, ils adorent une créature imaginaire. Donc Dieu, il n'a pas de semblable, n'a pas d'égal. Il existe avant l'espace, le temps. On ne peut pas l'imaginer. Rien n'est tel que lui. Rien n'a de ressemblance avec lui. Il a fait que cette vie, elle est sur des causes. Et Dieu, le créateur des causes et des conséquences. T'as froid, tu t'habilles. T'as chaud, tu te rafraîchis. T'es malade. Donc il y a plein de sortes de remèdes. Comme le miel, telle plante, etc., etc. Il y en a beaucoup. C'est Dieu qui crée tout ça. Le feu est une cause pour la chaleur. C'est Dieu qui crée la chaleur dans le feu. C'est Dieu qui crée la froideur dans la neige ou dans la glace. C'est Dieu qui crée la coupure dans le couteau et la douleur de la coupure. Tout cela est créé par Dieu. Donc, utiliser les causes, ça ne contredit pas la croyance musulmane. Parce que c'est avec ça, les wahhabites, ils attirent les gens et les emmènent, même certains, faire l'extrémisme dans les pays musulmans, comme en Syrie ou autres, parce que Daesh, Qaïda, tout ça, c'est le wahhabisme. C'est vrai que eux, ils font la propagande intellectuelle et les occidentaux, ennemis de l'islam, ceux qui contre l'islam, ben ils leur donnent, ils les aident pour massacrer, tuer des musulmans et casser les pays musulmans. Donc c'est ça, pour ne pas tomber dans le piège de ces gens-là, il faut apprendre la religion avec chaîne de transmission. Donc ça, c'est parmi les points qui font le dogme wahhabite. Interpréter mal et attribuer Dieu ce qui n'est pas de lui, déclarer les musulmans mécréants parce qu'ils utilisent des causes permises selon l'unanimité des quatre écoles. Donc ça, c'est parmi les deux points, parce qu'on avait commencé à parler de cette secte et comment ils sont apparus, ils ont massacré les musulmans en Arabie pour prendre le pouvoir, ils ont été aidés par les Anglais, etc. Et en parlant de Shaitan, on a vu que de là le prophète, il a dit « Minayat l'aqam shaitan ». C'est de là, là-bas, qu'apparaîtra le fer de lance du diable. Où ça? Bah, où sont apparus les wahhabites? À l'est. Où il y a Riyad, etc. À l'est de Médine. Parce que le prophète, il a dit ça quand il était à Médine. Donc, déjà, connaître la bonne interprétation de la Fatiha permet de comprendre correctement certains sujets de la religion, notamment sur le fait que on demande à Dieu le profit, la création du profit, mais ne veut pas dire qu'on ne peut pas demander l'aide dans le sens de la cause aux créatures Donc on a vu le hadith Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah aide l'esclave tant que l'esclave aide son frère. C'est une cause pour avoir l'aide, donc la facilité par Allah quand tu aides par recherche de l'agrément ton frère dans ses besoins, etc. Ça montre bien qu'on peut s'entraider et demander les aides des créatures en croyant que c'est Dieu qui crée le profit et les nuisances. C'est des causes que Dieu fait. Comme le manger, on a faim, on mange. Les anges, on a vu, ils ne mangent pas, ils ne dorment pas, ils ne se reproduisent pas, ils ne se fatiguent pas. Car Dieu n'a pas créé en eux ces caractéristiques-là. Les humains, les djinns, les animaux, Dieu a créé en eux ces sensations de froid, de fatigue, de soif. Donc, voilà, car c'est Dieu qui crée tout. Donc, voilà l'explication de Surat Al-Fatiha, avec quand même cette mise en garde très importante, parce qu'on a vu le verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc l'adoration, c'est l'extrême humilité et soumission. Des grands linguistes, ils ont expliqué cela. Comme Taqiyyuddin Subki, d'ailleurs, qui a dit Al-ibadatu aqsa ghayat al-khushu' wal-khudu', l'adoration c'est l'extrême limite de l'humilité, de la soumission. C'est un sens précis. Et cet homme-là, d'ailleurs, c'était un grand savant, et celui qui a répliqué à la référence première de la secte wahhabite extrémiste, il lui a répliqué, donc plusieurs fois, il a répliqué à Ibn Taymiyyah. Donc celui qui est mort en prison, qui était jugé par les quatre juges musulmans, il est mort dans la prison de Damas. Donc c'est important de connaître le passé pour comprendre le présent. Et les gens qu'on manipule, c'est des gens qui baignent dans l'ignorance. Ils n'ont pas de référence, donc ils se font manipuler facilement. Donc ça, les détails, on y reviendra. La référence première des wahhabites. D'ailleurs, on leur donne les livres de Ibn Taymiyyah. On les forme avec les livres de Ibn Taymiyyah. Lui-même, il était influencé par les philosophes, etc. Comme ses élèves l'attestent. Des gens proches de lui, des gens qui l'ont côtoyé. Parmi ses élèves, Zahabi, il cite que... Et il était orgueilleux, c'est ce qu'il a perdu. C'est son orgueil. Orgueil démesuré, comme on dit. Il veut les titres. Et c'est un problème, même de nos jours. Beaucoup, c'est les titres. Et il veut la considération des gens et tombe, il s'égare. Et il a suivi les philosophes. Comme certains, ça arrivait aussi, c'est relaté dans l'histoire, même à Cordoue, par exemple, Cordoba, etc. Certains qui ont suivi des philosophes, ils se sont égarés. De certains qui connaissaient le Coran, etc. Donc, voilà. Subki, donc on y reviendra, comment il a répliqué. Et beaucoup d'autres lui ont répliqué. Parmi ses anciens élèves, ou des gens qui, au début, pensaient du bien de lui, comme Abu Hayyan. Donc Abu Hayyan, il dit bien que Taïm, il attribuait Dieu le corps, la quantité. Abu Hayyan est très connu par son livre très grand, Al-Bahr al-Muhit. Il y a un résumé qui s'appelle Nahr al-Mad. Donc eux, ils attirent jusqu'à maintenant en jouant sur ça, en disant tes parents sont égarés parce qu'ils vont visiter les tombes. Et donc ils vont déclarer, ils vont dire shirk, shirk, et les gens répètent bêtement, alors qu'il y a des règles précises dans l'islam. Donc il y a des règles précises, la mécréance c'est s'humilier à l'extrême pour autre que Dieu, comme ceux qui s'humiliaient à l'extrême pour les statues, ou comme on a vu ceux qui adoraient leurs prêtres et leurs chefs religieux et Isa en s'humiliant à l'extrême, en croyant qu'ils peuvent pardonner les péchés ou qu'ils peuvent décréter permis ou interdit de leur propre chef. Ça rentre dans le shirk. Car c'est valable que pour Dieu. Rendre, décréter, permis ou interdit, ou pardonner les péchés, ou créer les choses, les faire passer d'une vie en existence, c'est valable que pour Dieu et l'attribuer à autre que Dieu. Et ça, c'est du shirk. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Donc on reviendra sur les détails, Inch'Allah. Donc, dans les prochaines fois, Inch'Allah. Donc, j'espère que c'est clair avant qu'on va passer pour la deuxième partie. Alaykoum salam pour tout le monde. Donc déjà, on reprend pour la prononciation. A'oudhu billahi minash shaytanir rajim. Donc parmi les règles, on a vu le jim, shidda, donc on a vu dans les points de tajwid. Ceux qui n'ont pas vu, ils écoutent les cours précédents. On ne dit pas ar-rajim, ja-du-ji, donc on a parlé de ça. Bismillahirrahmanirrahim. Il ne faut pas oublier les shadda, les doublements. Ra, il faut bien le prononcer, ne pas mélanger avec le lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Donc on a dit, même quand on remercie Dieu, on dit alhamdulillah. On dit pas alhamdulillah. Ça vient à cause du dialecte, et on a dit ça, mais on peut pas, c'est interdit de déformer le nom de Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Donc il y a d'autres récitations où c'est Maliki sans prolongation. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina s-sirata al-mustaqim. C'est un ta et un sad. Ihdina s-sirata al-mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم مد اللين on a vu pour le ya عليهم comme يوم غير المغضوب عليهم ولا الضالين citant donc c'est ça qu'on fait parce que il y a un mad, une prolongation plus une shadda. Donc ça, on l'a vu. Ghayril maghdoubi alayhim walam dhallin. Donc ça, en travaillant petit à petit, on prend son temps, on peut s'arrêter. Ghayril maghdoubi alayhim walam dhallin. Et en doublant le lam aussi. Donc les points de prononciation on a vu. Donc on va continuer, Inch'Allah. Donc la Fatiha, comme on a dit, il y a plusieurs récitations. Comme on a dit, il y a ce qu'on appelle les 10 récitations. On a vu ça à l'introduction, les détails. Comme beaucoup de gens connaissent Hafiz Qaloun. Alors on va voir pour la Fatiha, parce que certains ils ont posé la question. Donc Bismillahirrahmanirrahim, ça c'est chez tous les récitateurs, il n'y a pas de divergence. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pareil pour toutes, il n'y a pas de divergence. Ar-Rahman ar-Rahim aussi. Maliki yawmiddin sans prolongation. Il y a chez Nafa par exemple. et Hamza. Donc il y a, c'est des récitateurs en fait. Donc on va voir brièvement. Maliki Yawmiddin, en prolongeant, c'est Asim. Et donc celle qu'on récite souvent dans les pays de Cham, c'est pour ça en France donc elle est utilisée, c'est Hafs. Ça suit en fait la langue de Quraysh, c'est l'arabe le plus éloquent parmi les différentes manière d'utiliser la langue arabe. Il y a des divergences même dans la langue arabe chez les grandes tribus arabes. Donc il y a la prolongation Maliki, Maliki, selon Asim. Et il y a avec l'idram, il y en a chez As-Soussi, Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki, Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Donc il fait idram dans le mime sans prolonger le mime. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, chez tous les récitateurs. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Donc la plupart ils utilisent le sod. Il y en a d'autres ils utilisent le sin. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Il y a d'autres manières aussi. Ils utilisent un son proche du zay. Donc صراط الذين أنعمت عليهم. Ya صراط الذين أنعمت عليهم. Ya عليهم ya عليهم. Donc ça c'est pour quand vous entendez des récitations, vous savez, vous avez une culture, des fois vous entendez des récitateurs, ils la récitent de plusieurs manières, une seule fois. Ils récitent et puis chaque ayah il l'a dit de plusieurs récitations. Comme ça, vous avez une culture, bien que ce qui est requis, une seule récitation. Et ce qu'on travaille, donc c'est Hafs, que ce soit pour le Fatiha ou d'autres qu'on aura travaillé. Donc il y a ces différentes récitations, il y a d'autres détails aussi. Mais j'ai montré quelques-uns, comme ça vous avez... Il y a sirata avec le sin, an'amta alayhim, sirata alladhina an'amta alayhum. Il y a donc ghayril maghdubi alayhim. Et il y a ghayril maghdubi alayhimu. Il y a alayhim sukun et alayhimu. وعليهم صراط الذين أنعمت عليهم. Donc ça celle qu'on récite, quelqu'un qui récite n'importe quelle récitation rapportée des 10, c'est valable, mais il faut qu'il maîtrise. صراط الذين أنعمت عليهم يا عليه عليهم et alayhim. Voilà, donc toutes ces récitations. Donc on reprend où on était. Alors on a vu pas mal de sujets sur les règles de prononciation, donc notamment les caractéristiques des lettres, d'où les points de prononciation, les caractéristiques, l'hams, les lettres, il y a du souffle qui sort avec elle. Fahatha ou charson sakat. C'est bien de revoir jusqu'à, pour retenir vraiment par cœur, ça facilite. et le contraire, c'est le jahar, shidda. Donc c'est des règles qui reviennent souvent, on a besoin. Celles qui coupent le sang, ij, c'est ce qu'on a vu. Ar-rajim, ij. On ne dit pas rajim, ça coupe pas le sang là. Le ja, ça n'existe pas en arabe, c'est ja, ij. Milieu de la langue avec le palais, et ça coupe le sang. Ij, comme id. Et l'inverse, il y a ar-rikhawa. Et puis les lettres intermédiaires entre la faiblesse et le tonus, l'in-umar. Les lettres dont ils mettent des mots, on a dit mnémotechnique pour retenir en fait. Donc ça on l'a vu. Les sons graves, les stéla, le kha, le sa, da, ra, ta, qa, va. Donc ça on l'a vu, on revoit rapidement. Les lettres du sifflement, sa, za, sa, sa. Donc on a travaillé les lettres. Lin, c'est ce qu'on a dit. Maliki, yaoumi, yaoumi, yaoumi din. Le ya, quand il y a, dans le cas où elles sont précédées d'une lettre avec fatha et qu'elles ont un sukun. Alayhim, alayhim, yaoumi. Donc on a vu ça. Donc on a vu des règles pour l'idram, pour le nun sakina et tanwin. Quatre règles. L'idhar, on prononce clairement quand il y a les lettres de la gorge devant elle. On l'a vu ça au début. Le a, le ha, a, ha, a, ha, ra, ha, min, khawuf, min, ilah. Et on fait l'idram quand, après le nun, sakina et le tanwin, il y a ces lettres-là. Yermaloun. Pour le ra et le la, on fait un idram complet. Mallam. Comme dans, ashhadu an la ilaha illallah. An. La, ça devient Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ça devient Muhammadan Rasulullah. C'est un drame complet sans runna. On rentre une lettre dans une autre. Et pour les autres, dans Yanmu, donc on a vu, on fait idram avec runna mayyakoum. Sauf quand c'est dans un même mot. On ne fait pas comme dunya, on ne dit pas dunya. On ne fait pas d'idram parce que c'est dans un même mot, ça va changer le sens. On fait l'iqlab, la transformation, quand il y a un ba. Min ba'di, ça devient min ba'di. Min ba'di. Anbi'hum, ça devient anbi'hum. Anbi'hum. Le nom devient un mim. Donc ça, c'est à revoir, on l'a vu. Et le reste des lettres, autre que ces cas-là, on fait l'irfa. Min su, on prononce pas clairement, mais on fait une nasalisation. Min su, man kan. Donc ça, on l'a vu. Donc on a vu les lettres Qamari et Shamsi. Là, on dit devant Al Qamar. Ash-shams. Des fois on prononce pas certaines lettres, on prononce pas le lam de l'article défini, et dans d'autres on prononce. Il s'est réuni dans cette phrase là les lettres on va prononcer. Ibri hajjaka wa khaf aqiba, ça on l'a vu. Al-bab, al-ghurab, al-hajj, etc. Al-mulk. Donc voilà, on l'a vu. La mim sakina. Donc on a vu la mim sakina. Alors il y a l'idram shafawi, il s'applique quand la mim est suivie de la lettre ba. Et dans ce cas, on a une runna nasalisation. La mim n'est pas totalement vocalisée pour marquer l'irfa. Ya'tasim billah. Ça s'appelle Ikhfa Shafawi. Il y a le mime après un ba. Au lieu de dire Ya'tasim billah, on dit Ya'tasim billah. On fait un Ikhfa et on fait une runna. Ya'tasim billah. On ne finit pas de prononcer le mime car on commence à prononcer le ba. On fait une runna. Idram al-Shafawi, quand il y a deux mimes, Amanahum min khawf. Au lieu de dire Amanahum min khawf, on dit Amanahum min khawf. On n'a plus qu'une runna nasalisation car il y a une mime mushaddada doublée. L'idhar al-Shafawi, si la mime suit d'une lettre autre que mime ou ba, alors elle est prononcée clairement. Ce qu'on appelle idhar. Ivhar. Lam yalid. On ne fait pas de règle spéciale. On prononce lam yalid ou lam yulad. Donc on arrivait à ici, les trois types de idram assimilation. Idram mutamathilayn, idram mutaqaribayn, idram mutajanisayn. En arabe, quand deux lettres se suivent, plusieurs cas de figure se présentent. Idram mutamathilayn, c'est le idram de deux lettres ayant le même makhraj, point de prononciation, et les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire deux mêmes lettres. Qul la se prononcera qul la. On en fait une seule lettre avec doublement. Qul la. Qad dakhalu, ça on dit qad dakhalu, qad dakhalu. Idram mutaqaribayn, c'est idram de deux lettres ayant des makhraj, point de prononciation proches, tels que dal et sin, ou bien dal et ta. Comme qad sami'a, on dit qas sami'a, qas sami'a. Idram mutajanisayn, c'est l'idram de deux lettres qui ont le même makhraj, point de prononciation générale, mais avec des caractéristiques différentes. قل ربي قل ربي قل ربي. Donc voilà. Donc voilà, il y a المتماثلين, c'est deux lettres les mêmes, donc on fait un idram. المتقاربين, bah ils ont des makhraj proches comme ذل et تاء et دل et سين. قس سمع, c'est proche, le del du sa. Et ceux, al-mutajanisayn, ils ont le même makhraj général, comme le ra et le lam. Car ils sortent avec le bout de la langue, avec le palais. Mais ils ont des caractéristiques différentes, bien sûr. On les prononce une seule lettre. Qul rabbi, ça devient qul rabbi. وقل رب أعوذك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Parmi les ayats qu'on récite pour la protection. Donc on regarde les tafrim et le tarqiq, l'emphatisation et la douceur. Tafrim ou tarqiq. Définition, le tafrim concerne les lettres qui sont graves au moment de leur émission, c'est-à-dire celles qui sont prononcées avec emphase et en remplissant la cavité buccale. Entre dans cette catégorie les lettres de l'istila. Kha, sa, da, ra, ta, qa, va. Au contraire, les lettres de l'istifal qui obéissent au tarqiq entrent aussi dans la catégorie des lettres donc graves, celles de l'inhiraf, la divergence dans certains cas. La et Ra selon les cas. Donc on verra pour le Lam, le Ra. Donc on reviendra pour le Lam et le Ra. Et donc on regarde pour comme on a dit, on fait langue arabe tajwid en parallèle pour faciliter la concentration. Quand on change de la chose, ça facilite la concentration. Donc Et on va voir où on est arrivé. Donc on a fait le ta dernière fois. Ta, tu, ti. Alif, le ba, on a vu. Le ta, on a vu. Et comme l'écriture. Donc on, dans l'arabe, inshallah, on avancera à chaque fois pour permettre à la personne de s'améliorer, inshallah. En mettant toujours la bonne intention par recherche de l'agrément de Dieu, en renouvelant la bonne intention pour avoir des récompenses. La langue arabe, l'apprendre, c'est quelque chose de bien, d'important. Mais bien sûr, ce n'est pas la priorité dans la religion. La priorité est de comprendre les règles de la croyance, de la pratique. Et ça, ça permet ici, c'est pour aider à réciter aussi correctement et inshallah, même directement du mushaf. Et faciliter donc la compréhension de la langue arabe. Donc le fa, donc on a vu déjà le fa, donc fahafahu shakhsun sakat. Donc on a vu les lettres de al-hams. فحفه شخص سكت إف ف ث في. Donc il y a du souffle qui sort avec. Donc ça permet de réviser. Donc bah les différentes manières, c'est comme le ba. Ba ta na fa, avant s'écrivait pareil d'ailleurs. Et en mettant en garde en même temps contre les wahhabiyas. C'est une innovation, ces points-là. À l'époque du prophète, ils n'écrivaient pas avec ces points-là. Ça a été innové. Donc vous voyez, des innovations qui sont acceptées, utilisées, utiles, bénéfiques. Au contraire de ce que disent les sectes wahhabiyas, les extrémistes, parmi leurs points, on y reviendra, mais c'est l'occasion de le citer, ils disent non, toute innovation c'est de l'égarement. Ils interprètent mal des hadiths, donc on verra. Ils interdisent tout bien que les musulmans ils font, comme l'Isra et le Mi'raj, etc. Et des gens ils les suivent avec eux, ils vont même parler du prophète, ces miracles. Tu dis non, innovation, bid'a. Alors, ben, regardez la langue arabe. Et dans le mushaf, les trois points, c'est une innovation. Donc ça a été fait après. C'est même pas des compagnons, c'est successeur des compagnons, Yahya ibn Ya'mal, qui a fait les points dans le mushaf. Le mushaf, il n'y avait pas des points. Banatafa s'écrivait pareil. Donc ça a été innové, ces points-là là, que vous voyez. Donc vous voyez, donc ça, comme ça, à chaque fois vous retenez des preuves contre cette secte extrémiste utilisée pour détruire les pays musulmans. Ils se contredisent parce que eux-mêmes ils impriment des livres avec cette innovation. Fa'un, le nom de la lettre c'est fa'un. Donc voilà comment ça s'écrit. Fa. Donc au début, au milieu c'est celui-là. Et à la fin. Ursum da'iratan hawla al-harfi. Fa. C'est-à-dire encercle la lettre, c'est pas comme ici encadré, c'est encercle la lettre fa dans ce qui suit. Thawrun. Thawrun, c'est le premier, donc taureau. Kathirun, beaucoup. Thalathatun, trois. Fa'labun, renard. Thimarun, fruit au pluriel. Thamanun, prix. Thaljun, donc vous voyez, ja, thaljun, neige, la neige. Ja, vous voyez, c'est pour le français, neige, la neige. En arabe, il n'y a pas j, c'est ij, ja, ju, ji. Thaubun, vêtement. Timthalun, statue. Ithnani, deux. Thorbanun, serpent. Tharun, revanche. Tharwatun, fortune. Thallajatun, réfrigérateur. Ja, thallajatun, réfrigérateur. J'ai, le j'ai, c'est pour le français, comme j'ai dit. Uktub harfa fa'i hasaba al-amthilati talia. Écris la lettre fa comme les exemples suivants. Voilà la traduction. Donc, voilà. Fa. Donc, au début, au milieu et à la fin. Donc, on l'a vu. Donc, sauf que il n'y a pas de, comme ici, le ta marbouta. Il n'y a pas le fa marbouta. Donc, on. Donc, voilà. Donc, on va continuer. Des exemples d'écriture rapidement. Alors, je regarde quand même une question. Alors, je regarde la question quand même. Peut-on se fier donc sur l'adhan? Alors, la règle pour l'adhan, donc comme la prière, c'est un sujet très important. C'est le deuxième meilleur, c'est le devoir le plus important après la foi. Donc, la prière, il faut le temps qu'il est rentré. Être sûr que le temps, il est rentré. Donc, alors, parce que l'application, c'est dit clairement, c'est un calcul. La religion conditionne, donc on est sûr donc que le temps, il est qu'il est rentré. Être sûr que le temps est rentré. Et donc être sûr, ou on l'a vu de ses yeux, ou on a demandé à quelqu'un que, est-ce qu'il est rentré, qu'il a vu, qui a fait l'observation. Et si on a observé, donc le temps revient le même chaque année, et donc à la même, c'est-à-dire on va dire l'année prochaine au 14 mars, ben ça sera le même pour Dhuhr, pour l'Asr. Donc on observe deux fois par saison, par exemple. Donc il faut observer, comme c'est dit dans l'application, il faut observer. On invite les gens même à nous envoyer les observations. Donc il y a 5 minutes de précaution qui ont été mises, mais c'est un outil pour aider à observer. Donc religieusement, et il ne suffit pas de se fier simplement à un calendrier fait avec le calcul. Si tu as observé dans ton secteur, ben ça, c'est bon, tu peux utiliser. Donc c'est l'application, parce que tu as déjà observé et tu sais que c'est bon, ça correspond au début, à la fin de saison, donc ça correspond. Donc voilà la règle pour la prière. On reviendra dessus, mais quand même c'est important de le dire, parce que la prière c'est tous les jours, et on a vu que la bonne intention tout seul ne suffit pas. On a vu le hadith sur cela, les hadiths même, qui montre clairement que la bonne intention de vouloir faire le bien tout seul ne suffit pas. Donc, c'est important de observer pour avoir une prière correcte. Et donc, après la personne, quand elle a observé, c'est bon dans ce lieu-là. Et chaque nouveau lieu, elle observe. Dhuhr, quand est-ce qu'il rentre, etc. Al-Asr, on a vu brièvement. Donc il y a un temps calculé, par défaut il y a 5 minutes. Donc dans plusieurs endroits où on a observé, ça correspond le calcul à la réalité, mais quand même religieusement il faut observer. Dans le secteur où on se trouve, par exemple, dans l'île de France, moi je sais, on a observé, et là où je suis, donc je me fie donc à cela sans problème, en laissant bien sûr 5 minutes ou 10 minutes de précaution quand même. Donc, mais sinon, donc il y a eu l'observation. Et chacun dans sa ville, il faut qu'il y ait de l'observation. Ou lui-même, ou il demande à des gens qui ont observé. La prière, c'est un grand devoir. Donc c'est pas difficile, on a dit la langue arabe c'est la langue, la meilleure langue, c'est la langue la plus facile, c'est la langue des gens du paradis. Donc le PDF, bon, ceux qui n'ont, ils sont téléchargeables sur le site. On essayera de faire tous. On est au niveau 1 là. Yeah. Niveau 1, 2, 3, 4 et 5. Inch'Allah. On clique droit et télécharger. Donc les points de prononciation, il y a aussi sur le site. Comme ça, vous révisez. Donc réviser la Fatiha, vraiment, c'est important. On a vu dans les piliers, la récitation de la Fatiha, son importance. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Travaillez surtout sod, sa, su, si et do, du, dui. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pour la prière, quand vous vous déplacez, donc le calcul il est fait pour chaque lieu, donc il faut le ou écrire l'adresse ou se localiser. Parce que des fois, ils font pas attention parce que par défaut, dans l'application, il y a Paris. Si tu fais rien, et par défaut, ça te donne Paris. Ou ça peut te donner des erreurs qui sont pas correctes. Donc c'est important ou de se localiser ou de d'écrire l'adresse. On peut la dicter avec l'application par audio aussi. C'est une fonctionnalité en plus. Donc voilà pour la Fatiha. Pareil, l'article détaillé sur la mise en garde contre les wahhabites, il est dans le site. Donc il suffit de taper wahhabite dans la recherche et l'article, de cliquer sur rechercher et il apparaîtra. Donc vous recevrez l'audio aussi dans l'application du cours. Donc et il y aura dans la description de la vidéo aussi et dans l'article lui-même qui sera mis à jour avec l'audio. Donc il y a les détails, on y reviendra sur les wahhabiyas. La religion, c'est pas transmission, c'est pas tout ce qu'on trouve sur internet. C'est là le problème, les gens, c'est la qualité, ils veulent, voilà, qui le premier envoie une vidéo sensationnelle qui fait pleurer. Donc c'est pas parce qu'une vidéo fait pleurer que c'est forcément il y a la vérité dedans. Donc on a vu des points très importants sur l'adoration. Seul Dieu mérite l'adoration, qui est l'extrême soumission. Mais le simple simple crainte, soumission, ce n'est pas une adoration. Et utiliser les causes surtout. La baraka de Zamzam, du trace du prophète, ou des vertueux, ou de la Kaaba, tout ça, ça reste des causes permises. On ne peut pas déclarer mécréant le musulman qui utilise des causes. Ça, c'est l'extrémisme. On a vu en parlant de Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, c'est-à-dire on demande la création de l'aide de Allah seulement, mais demander l'aide à une créature, donc là, ça reste permis, c'est une cause. Donc on y reviendra, comme un compagnon, il demandait au prophète l'aide au prophète parce que c'est une cause. Après, pendant sa vie, il ne crée rien et après sa mort, il ne crée rien, le prophète. Pendant sa vie, il est utile par la volonté de Dieu. Et après sa mort, il est utile par la volonté de Dieu. Donc il y en a, ils sont partis, on verra les détails. Quand il y avait la sécheresse à l'époque de Omar, et le trésorier, celui que Omar est l'ami qui s'occupe du trésor de l'État. Et donc il est parti, Bilal ibn Harith al-Muzani, il est parti à la tombe du prophète, il a demandé au prophète de demande la pluie pour ta communauté. Donc il a demandé au prophète de demander la pluie. auprès de la tombe du prophète, et Omar il l'a pas déclaré mécréant, comme ils font ces extrémistes. Donc c'est un point très important, parce que c'est avec ça qu'il attire les gens d'aller faire l'extrémisme. Et des gens, moi personnellement, quelqu'un il pleurait devant moi, il m'a dit son fils architecte, il est parti avec cette secte là. Il pleurait devant moi. C'était quelqu'un qui a fait bac plus 5 et pourtant il est parti les voir. Et comment il l'a tiré avec ce point là, mal interprété, mal expliqué. Et quelqu'un qui n'a pas des connaissances, il va tomber dans le piège. Donc voilà l'importance de la connaissance. Le prophète a dit, ce qui signifie celui pour qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. Donc avec la religion, t'apprends, tu te préserves dans cette vie et tu auras, inshallah, la grande récompense dans l'au-delà. Et bien sûr, on a dit, Rayil Mardoubi alayhim, ici, ne veut pas dire colère ou humeur, mais ceux qui méritent ton châtiment. Le Ghadab au sujet de Dieu, c'est la volonté de châtier. L'humeur, c'est impossible rationnellement au sujet de Dieu. Dieu, il n'a pas d'équivalent, il n'a pas de semblable, il n'a pas d'égal, c'est ça. La croyance de l'islam qui est la seule vraie religion, la religion de tous les prophètes. مَهْمَا تَصَوَّرْتَ بِبَالِكَ فَاللَّهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent. Et on l'a dit, le monde existe et on l'a mis en garde contre. Dieu confirme l'existence du monde et c'est un blasphème de dire que le monde imaginaire n'existe pas. Attention, il pourrait y avoir des gens qui propagent ce genre de choses. Il y a des gens qui suivent n'importe quelle chose farfelue. Et donc la chose existe réellement. Dieu confirme l'existence des créatures. Et il est le seigneur de ce monde et le créateur de ce monde. Il ne ressemble pas. Donc le seul être qui n'a pas de ressemblant, qui n'a pas d'égal, qui n'a pas de début, qui ne s'anéantit pas, pour qui l'anéantissement est impossible rationnellement. Pour qui l'anéantissement est impossible rationnellement. Donc, Allah Ta'ala, tous ses attributs n'ont pas de début, n'ont pas de fin, ils sont spécifiques à lui. Personne, il n'a besoin de personne, personne lui a donné cela, personne lui a accordé cela. Donc, voilà. Donc, ces règles-là, très importantes de la croyance musulmane. La croyance de vérité, la croyance de tous les prophètes. Donc voilà ce qui est donc bien si vous avez les textes pour pouvoir réviser en fait. Et les questions, voilà pour Telegram directement avec ce lien, on arrive directement dans le message Telegram. Sans besoin de numéro, de mettre le numéro par exemple. Il y a sur WhatsApp aussi avec le numéro. Et c'est intéressant avec Telegram, c'est que on peut s'abonner à la chaîne Telegram et on reçoit les notifications facilement, plus facilement que sur WhatsApp. Et puis c'est une application de communication comme WhatsApp. Voilà, donc pour poser des questions. Et j'envoie d'autres cours, bien sûr, il y a d'autres cours, j'ai envoyé comme certains. Ce que j'envoie, ce qu'on envoie, c'est des choses de gens de confiance, c'est pas des choses qu'on trouve comme ça sur Internet. J'envoie le discours du vendredi. Et donc j'ai envoyé l'autre chaîne, l'Islam simplement. Il y a le frère aussi de confiance qui enseigne. Donc samedi, lundi et jeudi à 20h sur cette chaîne aussi. Et l'islam simplement. Voilà, donc personne, comme ça la personne ne perd pas son temps et elle a des choses sérieuses, valables. Elle peut s'améliorer. Donc c'est une grande facilité que Dieu, c'est un grand bienfait que Dieu facilite à la personne, quelqu'un de confiance, qui lui transmet la religion. مَنْ يُوَدَ اللَّهُ بِخَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Celui pour qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. Et le croyant ne se rassasie pas d'un bien que longtemps jusqu'à ce que la fin en soit le paradis. Dans le hadith, la yashba al-mu'min min khayr yasma'u hatta yakuna muntaha al-jannah. C'est dans le hadith aussi. Donc, il ne faut pas laisser la porte au shaitan de se lasser. Toujours, il faut se rappeler, Dieu nous a donné des yeux, des organes, des bienfaits qu'on ne peut pas dénombrer, qu'on a vu. On doit le remercier, c'est en apprenant sa loi et en l'appliquant, en sachant qu'il n'a pas besoin de nous, il n'y advient ni profit ni nuisance, et nous qui avons besoin de lui. On apprend, plus on fait de bien, plus on va en profiter dans l'au-delà. La personne ne dit pas, ça y est, dans cette vie, tu travailles dur pour avoir une villa, mais tu vas en profiter quand tu seras âgé, tu n'auras pas toutes les capacités, ou ça arrive, il y en a, il meurt avant d'y entrer, mais au paradis, tout ce que tu fais compte bien, conforme aux règles de la religion, bien sûr, en recherchant uniquement l'agrément de Dieu, tu vas en profiter dans la vie qui n'a pas de fin, qui ne s'arrête jamais. Donc voilà le conseil, le rappel, fais du bien. Donc, le dinun nasiha, comme il a dit le prophète, le conseil fait partie de la religion. Comme le fait de mettre en garde, d'ordonner bien, interdire le mal, ça fait partie de la religion. Donc, bienvenue. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Muhammadin Tahir al-Amin. Wa ala ali wa sahbihi al-tayyibin al-tahirin. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. وشفاء من كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بارك الله فيكم ريفيزي بيان. Assalamu alaikum.